RCF.
9h-11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On a parlé des spectacles immersifs. On va prendre un exemple jusqu'à 11h, à savoir Paris, cœur de lumière, le roman de Saint-Sulpice qui va être présenté en fin d'année à Paris, à Saint-Sulpice. On va vous emmener dans les coulisses de ce spectacle qui a l'air magnifique. On l'a pas vu évidemment encore, mais on a quelques images de quelques expériences. Vous êtes toujours les bienvenus en direct pour participer à cette émission et pour réagir. Agir au 04 72 38 20 23.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et quatre invités dans cette émission. Je vais prendre le temps de vous les présenter. Bonjour Natacha Géritsen.
Bonjour Melchior.
Bienvenue à vous dans cette émission. Vous êtes l'assistante
De Damien.
Ouais. De Damien sur ce spectacle. Ça veut dire quoi assistante?
Pour ça spécialement, oui. Ça veut dire beaucoup de choses à la fois. C'est de la collaboration, c'est un échange aussi, beaucoup. Damien écrit le spectacle. Ensuite, il va vous en dire un peu plus, mais il y a des voix enregistrées qu'on va entendre peut-être
Absolument.
Tout à l'heure. Donc moi, on discute beaucoup quand il écrit, parce qu'il y a des choses qu'il écrit qui sont parfois un peu longues. Damien est un homme généreux en écriture, donc on essaye un peu de restreindre. Et puis après, je choisis les comédiens, on les enregistre. Et puis ensuite, y a les répétitions, etc. Et là, en l'occurrence, je m'occupe également des comédiens bénévoles et des figurants bénévoles qui sont sur Paris, à travers des ateliers, d'une part, et ensuite, maintenant, on va attaquer les répétitions, donc à travers les répétitions.
Donc là, on est vraiment dans les coulisses, c'est parfait du spectacle. Ouais. Bonjour Louise Walter.
Bonjour Melchior.
Bienvenue également dans cette émission. Quel est votre rôle pour Paris, cœur de lumière?
Alors moi, je suis au niveau de la paroisse et je coordonne le spectacle pour la paroisse. En m'occupant de la coordination entre Damien et Natacha et la paroisse, et puis en gérant toute la partie bénévole, donc le recrutement des bénévoles, et puis tout ce qui est organisation de ces bénévoles.
Donc la paroisse de l'église Saint-Sulpice
exactement.
À Paris. Comment ça s'est passé au niveau du contact avec Damien Fontaine, qui peut-être est arrivé vers la paroisse en disant « Tiens, j'aimerais bien venir m'installer ».
Ah ben ça, je crois que le plus à même de raconter ça, c'est Damien, parce que au départ, il était tout seul. Enfin, il n'était pas tout seul, mais nous n'étions pas là ni les uns ni les autres. C'était avant même la naissance du texte et du spectacle.
Voilà. Je viens à vous, Damien, dans un instant. Bonjour, Swann Payouz.
Bonjour, Melchior.
Bienvenue également dans cette émission. Quel est votre rôle?
Du coup, moi, je suis comédien bénévole sur le spectacle.
Voilà, comédien bénévole. Donc, vous avez accepté de faire quelques représentations pendant toute la présentation de ce spectacle, ou alors c'est vraiment tout le long?
En fait, on fonctionne par binôme. Donc, c'est-à-dire qu'on s'arrange entre nous après pour que l'un fasse peut-être 2 semaines, l'autre 2 semaines, ou 1 semaine sur 2. Mais oui, moi, de toute façon, je me suis engagé bénévolement parce que le projet me plaisait à la base. Oui. Et je suis vraiment tombé amoureux du scénario. Et je fais aussi les choses, c'est mon métier maintenant, mais je fais aussi les choses par passion parce qu'il y a parfois des beaux projets et on a envie d'y participer.
Mmh. Damien Fontaine, rebonjour.
Rebonjour,
j'ai fait exprès de vous présenter en dernier puisque vous avez participé à la première partie de l'émission. C'est vous qui avez créé Paris Cœur de Lumière. Vous l'avez composé, ce spectacle?
Oui, en fait, au départ, je cherchais une église qui soit à même d'accueillir un spectacle, on a parlé d'immersivité tout à l'heure, mais un grand spectacle immersif et qui ait du sens par rapport à l'histoire qui allait être racontée. Donc j'ai pointé quelques endroits qui me paraissaient intéressants et j'en avais pas retenu beaucoup, j'en avais retenu 2 en l'occurrence. Et j'ai eu l'occasion de présenter ce projet au curé de Saint-Sulpice, le père de la Hougue. On a eu une rencontre, un grand échange ensemble, et c'était en 2022. Et très très vite, on a senti qu'il y avait la possibilité de travailler, de faire quelque chose ensemble, et ce spectacle est né. Alors, il est né Le scénario n'était pas encore écrit, mais l'idée, en tout cas, était là. Et derrière ça, à travers un certain nombre de rencontres que j'ai pu avoir avec des gens de la paroisse, mais aussi à travers un certain nombre d'ouvrages, de documents que j'ai pu consulter, j'ai commencé à imaginer, à construire l'histoire qui est d'aujourd'hui devenue le roman de Saint-Sulpice.
Alors, quelle est l'histoire, justement?
Alors, l'histoire, elle sera un peu longue à raconter en quelques mots, mais je vois que Natacha se prend un fou rire parce qu'elle a peur que je vous monopolise l'antenne pendant une heure. Mais,
vous pouvez, hein, on est là pour
non,
ça.
Non, mais voilà, je vais essayer de faire très court. Non, l'histoire, elle s'inscrit de 1640 environ jusqu'aux veilles de la Révolution française. C'est en fait la durée pendant laquelle le chantier de Saint-Sulpice a permis à l'église qu'on connaît aujourd'hui de sortir de terre à Paris. Et pendant les 150 ans de sa construction, c'est pas cette construction-là qu'on va raconter véritablement, ça n'aurait pas un grand intérêt. Nous, enfin, en tout cas, dans l'écriture que j'ai eue, c'est, ce qui m'a intéressé, c'est de construire à la fois une œuvre romanesque autour de certains bâtisseurs, de personnages que j'ai inventés, et plutôt de familles de personnages que l'on va suivre à travers les âges, à travers le temps. Et le temps, justement, c'est aussi un temps avec un certain nombre d'épisodes politiques qui commencent par la Fronde à Paris, et je le disais, jusqu'à la veille de la Révolution française. Donc, une œuvre, une fiction, dans un contexte et dans un cadre historique qui est celui de Paris de l'époque.
Natacha ?
Une sorte de roman historique, en fait. C'est ouais. Tout simplement un roman historique, avec quand même ce contexte spirituel de l'église Saint-Sulpice et sa construction et cette volonté du premier prêtre qui a lancé cette construction d'en faire la plus grande église de Paris, puisque Saint-Sulpice est la plus grande église de Paris. Ouais. Elle est plus grande que Notre-Dame.
Il fallait respecter le lieu aussi.
Oui,
c'est évident.
On pourrait se dire, on va juste créer un spectacle dans une église parce que c'est joli. Là, il y a quand même, pour vous, il y a à la fois le côté, bien sûr, artistique, il y a aussi le côté spirituel qu'il faut respecter.
Oui, alors j'aime assez ce que vous venez de dire. On va ne pas faire uniquement un spectacle dans une église parce que c'est joli, justement. Et ça a toujours été le maître mot dans ce que j'ai pu développer depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire d'apporter, en l'occurrence, une histoire qui s'inscrive dans le lieu, qui soit pas une histoire rapportée. On pourrait très bien avoir un spectacle qu'on ferait tourner un peu partout et qui n'aurait pas de spécificité par rapport au lieu. Là, en l'occurrence, on arrive, et c'est peut-être aussi la chose la plus compliquée pour nous, mais on arrive avec une page vierge, on écrit tout, et on écrit tout en fonction du lieu, en sens que le roman de Saint-Sulpice, comme son nom l'indique, de toute façon, ne pourra pas être joué ailleurs que dans cette église. Et j'allais dire, la technologie ou les technologies qui sont utilisées en images, en lumière, du coup, ne sont pas amenées pour faire de l'épate visuelle ou de l'épate technologique, mais véritablement pour servir le propos artistique qui est celui du spectacle.
Pour raconter quelque chose avant tout. Ouais. C'est pas du joli, c'est un sens. Le travail de Damien a un sens.
Il faut que ce soit joli quand même.
Ah, il faut que ce soit beau.
Oui, beau.
J'irai plus loin, il faut que ce soit beau.
On va rentrer dans le débat, mais qu'est-ce qui est beau?
Il faut que l'église soit mise en valeur, puis cette église, elle change totalement d'apparence. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle devient Versailles. Avec Louis XIV, puisqu'on est en pleine période
Louis
XIV.
On y vient.
Oui, elle change d'apparence, elle devient... Puis c'est amusant aussi de penser qu'à l'époque, à Saint-Sulpice, c'était un quartier relativement pauvre, c'était un faubourg. On n'a pas l'impression aujourd'hui, quand on connaît un peu le quartier, que c'était pauvre, mais c'était vraiment un quartier pauvre. Et il y a tous ces gens engagés, tous ces paroissiens, tous ces bienfaiteurs, et puis... Parce que Damien a raconté une saga aussi un peu, à la manière des feuilletons du 19e siècle, quoi. Avec des gentils, des méchants, des pas gentils, des pas méchants, des gens qui s'aiment, qui devraient pas. Enfin bon, il y a tout ça aussi. Ouais. Il y en a pour le cœur, il y en a pour l'âme et il y en a pour la tête.
Louise Walter, pardon, je vous ai coupé la parole.
Non.
Louise Walter, pour la paroisse, c'est une bonne nouvelle d'accueillir ce spectacle.
Oui, c'est une superbe nouvelle parce que ça permet de mettre en valeur cette magnifique église qui est vraiment un beau monument parisien. Et puis, ça permet aussi de faire découvrir l'histoire et le patrimoine de cette église à des personnes qui sont extérieures à la paroisse et puis qui viennent pour découvrir un beau spectacle son et lumière qui raconte une histoire. Et donc, c'est vraiment une très belle opportunité pour la paroisse.
Alors, il y a plein d'appels d'auditeurs et d'auditrices au 04 72 38 20 23. Alors, évidemment, ça va être compliqué de parler du spectacle puisque pour l'instant, il n'est pas présenté. Donc, il va y avoir des appels, vous allez l'entendre, sur notre thématique du jour, à savoir quand même le spectacle immersif. On commence avec vous, Michel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Bayeux, dans les Hauts-de-Seine. On vous écoute.
Voilà, bonjour. Eh bien, je suis paroissien de l'église Saint-Hermelan à Bagneux. Et nous avons tous les soirs, lorsqu'il fait nuit, le premier quart d'heure de chaque heure, nous avons un appareil, un projecteur qui éclaire le tympan. Qui éclaire le tympan en bleu, en vert, en rouge, en noir, etc. Mais ça mérite le détour pour voir ce spectacle. Mais le problème, c'est que cet appareil est en panne depuis 6 mois. Le projecteur est en panne depuis 6 mois, donc nous ne voyons plus rien le premier quart d'heure de chaque heure.
Et donc vous êtes triste?
Triste? C'est beaucoup plus. Je suis, oui, évidemment, très, très triste. Et la mairie est au courant, monsieur le curé est au courant, tout le monde est au courant, et on nous dit, oh là là, il faut attendre. Voilà. Donc, je pense que c'est vous qui avez installé cet appareil.
Alors, nous, non, je ne crois pas, Damien.
Je suis désolé pour vous, monsieur, mais effectivement, je n'ai pas installé, ou du moins dans mes équipes, personne n'a installé le matériel en question. Par contre, on pourra toujours aisément revenir vers la municipalité ou vers la paroisse pour leur faire peut-être des propositions complémentaires pour renouveler les choses qui ont l'air un peu défectueuses en ce moment.
Mais ce qu'on entend, c'est à quel point, et Michel a raison de nous le dire, c'est que quand on s'habitue à une immersion, une exposition, même si c'est des couleurs sur un tympan d'une église, c'est marquant. Et puis ça, voilà, sans voir ça, il est quand même un peu triste, quoi, Damien.
Oui, parce que finalement, ça fait partie de ce nouveau décor. On parle beaucoup des plans lumière dans les villes. Ça s'articule aussi dans ces plans lumière de municipalités, de communes, et sous des formes un peu plus artistiques que simplement une mise en lumière de rue. Mais justement, lorsque on le voit, lorsque d'ailleurs une rue s'éteint pour des raisons défectueuses, les riverains vont râler et ils auront bien raison. Là, c'est la même chose. Il a ce tympan qui, pour lui, est une signalétique et avec un grand symbolisme nocturne tous les soirs. Et en l'occurrence, il ne fonctionne plus.
Bon, ben voilà. En tout cas, merci Michel pour votre appel. Dans un instant, on accueillera Yveline, et Claire au 04 72 38 20 23. Mais je vous propose, tant qu'à faire, d'écouter justement un extrait du spectacle, parce que vous avez commencé déjà à enregistrer quelques bandes sonores. On va écouter un extrait de la scène numéro 3 tout de suite.
La scène? Il faut que je rejoigne la scène. Mais où est donc ce maudit fleuve?
Eh bien, mon fils, il ne faut pas jurer ainsi.
Benjamin, c'est comme ça que je m'appelle, l'abbé. Et, sauf votre respect, je suis pas votre fils, moi. Je suis un huguenot. Un de ceux que vous appelez les parpaillots, qui se battent avec vos paroissiens. Où est ce fleuve?
Il ne me semble pas que tu sois en état d'aller nager, mon garçon.
Mais Benjamin ne sait pas nager. Et c'est bien pour ça qu'il veut y aller. Et... plouf.
Comment? Mais tu n'en as pas le droit. Dieu t'a donné la vie, et c'est lui seul qui la reprendra. Et tu as encore tant de temps devant toi.
La vie, l'abbé? Mais quelle vie? Elle ne veut pas m'épouser. Vous comprenez?
Voilà, un extrait de la scène numéro 3. J'ai fait des coupes. Hein.
Oui, j'étais un peu surprise, mais oui.
Interprété par le grand comédien Guillaume de Tonquédec. On entendait sa voix qui interprète l'abbé Ollier. Et puis Axel Orient, également un jeune comédien qui avait joué dans Scam, notamment, qui avait fait des seuls en scène.
Oui, qui est au Français, qui est à la Comédie Française actuellement, dans Art Majeur, au studio de la Comédie Française.
Est-ce que vous pourriez nous parler de cette rencontre?
Alors, cette rencontre, en ce qui me concerne...
De ce qu'on a entendu.
Ah, la rencontre entre Ollier et...
Au niveau de l'histoire. Après, d'accord. On pourra parler des acteurs, des comédiens.
Alors, voyez, vous dites l'abbé Ollier, lui dit l'abbé, parce qu'il est protestant, mais normalement on ne devrait pas dire l'abbé, on devrait dire monsieur Ollier, parce qu'à l'époque on ne disait pas l'abbé. Donc ça a fait l'objet d'ailleurs d'un conseil de la part du père de la Hougue, parce qu'on disait ni père, ni abbé, ni... Donc voilà, alors il l'appelle tantôt le curé, tantôt monsieur, dans l'histoire. Et la rencontre entre les deux, en fait, c'est le début du spectacle. Et Ollier est en train de, enfin, Monsieur Ollier est en train de mettre en route le chantier. Et il y a un jeune homme qui débarque, qui est donc protestant, qui est saoul comme un cochon, et qui a l'intention d'aller se jeter dans la Seine. Et l'abbé Ollier, on va l'appeler comme ça, nous quand même, va lui sauver la vie. Mmh. Et ensuite, ça va entraîner tout un tas d'intrigues dont Damien a le secret et le goût. Ce garçon va mal finir, en fait, le pauvre. Mais voilà. Et c'est cette charité chrétienne qui va faire que Benjamin va épouser la foi catholique et surtout va contribuer à la construction de l'Église lui-même en devenant maçon. Il est amoureux et la femme qu'il aime ne veut pas de lui. Et puis là, en rentrant dans le giron de l'abbé Ollier, eh bien, il va rencontrer une autre femme, plus jeune, et puis voilà, il va avoir un enfant, tout ça. Mais bon, il va mourir très vite.
Oui. Damien Fontaine, alors là, c'était vraiment au niveau de l'histoire, et la rencontre avec Guillaume de Tonquédec et Axel Orion.
Ah, c'est ça dont vous parlez.
Non, c'était très bien, on a parlé d'histoire. Comment ça s'est passé?
Alors là, du coup, je vais repasser aussi la parole à Natacha, oui, parce que c'est des choix qu'on a évoqués évidemment ensemble par rapport à un certain nombre de comédiens, de comédiennes qu'on souhaitait intégrer sur cette opération. Avec Natacha, sur des spectacles précédents, on avait évoqué, je crois, dans la première partie, le spectacle qu'on avait initié donc à Lyon en 2021. Axel Orion était déjà une des voix majeures dans ce spectacle, et j'avais vraiment beaucoup accroché avec ce jeu, ce timbre, et lorsqu'on a évoqué un certain nombre de protagonistes, Axel s'est naturellement réimposé dans la distribution, et il fallait choisir justement cet abbé Ollier. Et après, on a évoqué Guillaume de Tonquédec, et c'est ensuite Natacha qui a eu la charge et le privilège de les enregistrer.
Mais en fait, moi, ce sont deux personnes que je connais. Enfin, oui. Guillaume moins bien, mais Axel, je le connais depuis très longtemps. Et pareil pour Annie Dupéret, etc. Ce sont des gens.
C'est moi qui
les contacte effectivement à chaque fois, puisque moi, je suis dans ce métier. Moi, mon métier, c'est avant tout le théâtre et le
Vous
doublage.
Vous êtes comédienne.
Oui, moi, à l'origine, je suis comédienne doublage. Et maintenant, ouais. Je suis directrice artistique. D'accord. C'est-à-dire que je suis metteur en scène du son, si vous voulez, en gros. Et donc, voilà, ce sont des gens que je connais, que je fréquente au quotidien, et voilà.
Donc, il y a les comédiens qu'on entend dans la bande-son, mais aussi, comme Swann Payouz, qui est avec nous ce matin, les comédiens bénévoles qui seront donc sur scène lors des représentations à partir d'octobre. Swann, pourquoi vous avez accepté ce projet? Comment c'est venu pour vous?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en tant que comédien, j'ai envie de me spécialiser dans tout ce qui est un peu reconstitution historique, défense du patrimoine et de l'histoire. Donc forcément, quand j'ai vu le scénario, j'en suis tombé amoureux. Et aussi parce que c'est un challenge, parce que justement, vu qu'on sera avec des voix, donc des voix doublées, c'est aussi un exercice en tant que comédien que de réussir à jouer par rapport à une voix qui n'est pas la nôtre. C'est facile quand c'est la nôtre, on maîtrise, on peut prendre le temps qu'on veut. Là, c'est très, très minuté, très chronométré. Donc oui, c'est un bon exercice, je trouve.
Et vous êtes comédien professionnel?
Je le passe cette année, en tout cas.
Ah, donc là, vous êtes en formation, toujours?
En fait, moi, j'ai fait les cours Florent. J'ai commencé en 2014 jusqu'en 2018. Ensuite, j'ai fait des petits projets à droite à gauche. Il y a eu une longue période un peu de désert, on va dire. Et c'est depuis quelques temps où vraiment, je fais de plus en plus de casting, etc., Et ensuite, je vois des annonces, je postule, soit je suis pris, soit je ne suis pas pris, c'est le jeu. Mais oui, du coup, là, je passe. En fait, j'ai réussi un casting pour passer pro. Je reste bénévole sur ce spectacle-là.
Oui.
Mais parce que je veux quand même continuer de faire des projets qui me plaisent et pas juste me dire, bon, bah, si c'est pas payé, je passe à côté. Alors que l'histoire me tient à cœur, en fait.
Yveline nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Yveline.
Bonjour. Alors écoutez, moi je suis dans le Maine-et-Loire, exactement, dans la région des Pays de la Loire, et j'habite à Montsoreau, un petit village qui est très 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 près de l'abbaye de Fontevraud. Et oui. Depuis 3 ans, maintenant, l'abbé de Fontevraud nous propose Les Étoiles de Fontevraud, une création de Bruno Cellier qui est tout à fait extraordinaire. C'est absolument magique. Ça nous permet de circuler dans l'histoire, de se promener dans l'histoire de l'abbaye avec ses 36 abbesses et puis la prison qui a été nommée plusieurs fois aussi dans l'histoire de l'abbaye. Les sons, les lumières, tout ce qui est vraiment coloré et qui raconte l'histoire de la cité monastique est extraordinaire. Et c'est un excellent parcours pédagogique pour les enfants, pour ceux qui n'ont pas très envie de rentrer dans une abbaye, un musée ou un château, c'est plus facile. Mais là, pour l'abbaye, c'est fantastique parce qu'il y a un vrai parcours. On circule la nuit et c'est assez magique. On voit le chœur éclairé de l'extérieur. On voit l'abbatiale remplie de lumière avec des effets de scène, des effets de ciel, des effets extraordinaires. Donc c'est absolument magique et je trouve que c'est extrêmement pédagogique pour tous les enfants, les jeunes ou les moins jeunes, les adolescents et les adultes qui ne connaissent pas forcément ce que c'est qu'une abbaye. Et je trouve ça absolument fantastique. Alors ça a plein d'avantages, cet endroit-là, parce que d'abord il y a toute l'histoire qui est comptée, bien sûr, et oui. puis ça illumine, si je puis dire, entre guillemets, la région. Moi je suis responsable d'un festival de musique à côté, et bien les touristes qui vont à l'abbaye pour ce spectacle-là s'intéressent à ce qu'il y a autour, et ça génère les possibilités touristiques.
Ça fait rayonner, en tout cas, rayonner la région. Merci beaucoup Evelyne d'avoir pris le temps de témoigner dans Je pense donc j'agis ce matin. Là aussi c'est très intéressant. Louise Walter, je me tourne vers vous pour représenter la paroisse de l'église Saint-Sulpice. Est-ce que vous pensez qu'un spectacle comme celui qui va être présenté en fin d'année, ça pourrait permettre d'accueillir de plus en plus de fidèles dans la paroisse?
Oui, tout à fait, puisque donc parmi les bénévoles, on a évidemment des personnes de la paroisse, mais on a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, pas forcément pour la paroisse, mais pour le côté spectacle, théâtre, histoire et patrimoine. Donc c'est vraiment l'occasion de faire découvrir la paroisse à des personnes extérieures.
Damien, vous avez vu cette Fontevraud et puis cette
non, je l'ai pas vu, mais
ces étoiles.
Voilà, je l'ai pas vu, mais j'imagine très bien ce que ça peut être. L'idée c'est vraiment comme le soulignait cette personne, c'est encore une fois de pouvoir amener ses enfants, sa famille à l'occasion d'un spectacle dans lequel on serait peut-être, enfin sans lequel, je veux dire, on ne serait peut-être pas venu naturellement pour visiter le lieu. Donc quelque part, c'est aussi l'objectif qu'on a tous ensemble à travers Paris Cœur de Lumière, c'est de faire en sorte que le public qui va venir assister à cette création soit pas uniquement un public habitué à arpenter les bancs des églises et les allées, mais vraiment des gens de tous horizons. Là, encore une fois, on sort d'un spectacle qu'on a donné il y a quelques semaines encore à Mulhouse, qui s'appelait Terra Alsacia dans une église, qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Et on avait autant parmi les figurants comme Swann ici, on avait des gens de tous horizons, de toutes confessions, des musulmans, des athées, des agnostiques, enfin de tout. Et je trouve que cette ouverture d'esprit à cette occasion-là est quelque chose de vraiment intéressant, à la fois pour les personnes qui s'engagent en tant que figurants, comédiens sur ce spectacle, que parmi les gens qui assistent au spectacle.
Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, Natacha.
Ah oui.
Ça, c'est une règle.
C'est une règle. Enfin, pour moi, c'est
un peu fort comme terme.
Pour moi, je vais même dire que c'est une règle d'or.
Ouais.
Ça doit être accueillant, humaniste. C'est le propos. Moi, quand les gens me demandent, mais est-ce que je peux venir? Je suis pas catho, je suis pas ceci, je suis pas cela. Je dis, mais bien sûr. Tant que tu as envie de participer à quelque chose qui raconte l'histoire de Paris, qui raconte l'histoire de ces gens qui se sont battus chacun à leur façon, et que tu es humaniste, que tu vas pas être intolérant, évidemment, de quoi que ce soit, mais bienvenue. Quelle que soit ta couleur, quel que soit ton âge, bienvenue. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais passer la parole à Louise, parce qu'on cherche encore des bénévoles, donc je vais la laisser vous parler, parce qu'on a encore besoin, on en a déjà beaucoup, 170, je crois. Et figurant, et on en cherche encore quelques-uns, puisque comme ils sont en binôme, comme vous expliquez Swann, c'est-à-dire qu'ils sont en alternance, en fait, il en faut au moins 300.
Je reviens sur le message. Oui. Tout le monde est le bienvenu. Oui. Louise Walter, si vous faites partie de la paroisse Saint-Sulpice, j'ose penser que vous avez la foi. On est sur une radio chrétienne, donc je pense que ce sera intéressant d'en parler. Ce qu'on dit Damien et Natacha, c'est bienvenue, tout le monde est bienvenu. C'est aussi le message de l'Église.
Tout à fait. C'est vraiment même le message principal de l'Église, puisque ça n'aurait pas de sens que ça soit refermé sur, oui, sur elle-même. Donc c'est le message principal de l'Église de d'ouvrir
à
tous.
Ouvertes.
Voilà, les portes sont ouvertes. Comme le disait très bien Natacha, on a tout type de personnes parmi les bénévoles. Ça sera la même chose pour les personnes qui viendront voir le spectacle, et c'est ça qui fait, je trouve, tout l'intérêt de ce spectacle à la paroisse Saint-Sulpice.
Il y a un besoin de bénévoles encore?
Oui, alors
pour l'organisation, pour l'accueil, par exemple.
Alors c'est vrai qu'on a donc des bénévoles qui sont là pour aussi bien pour l'organisation que pour monter sur scène. D'un point de vue organisation, en effet, on a des personnes qui feront l'accueil des spectateurs, un peu de logistique, etc. Et donc toutes ces personnes-là qui sont là pour l'organisation du spectacle, on en a déjà un bon paquet. Et là, ce dont on cherche encore, ce sont des acteurs et oui, figurants pour monter sur scène. On en a déjà, en effet, un peu plus de 170 et on en cherche pour atteindre les 300 sur scène.
Donc des comédiens et des bénévoles, tout comme Swan, par exemple.
Exactement.
Ouais. Attention. Pardon, pas des comédiens professionnels,
oui,
des figurants, des comédiens qui aiment faire ça pour le plaisir, mais dont c'est pas forcément le métier. Mmh. Il ne s'agit pas d'une offre d'emploi, soyons clairs. Il s'agit de participer à quelque chose. Mmh. Et on a, mais des gens qui n'ont aucune expérience sur scène peuvent être absolument étonnants. Non, ils peuvent découvrir quelque chose. Il n'y a pas de critère de « Ah, toi, t'as jamais fait de scène, au revoir ». Non, 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 ça non plus. Et d'ailleurs, on a fait des ateliers depuis décembre, janvier, et j'ai découvert des gens extraordinaires, des gens qui n'avaient jamais mis les pieds sur scène et qui moi qui ai l'habitude des comédiens professionnels, c'est un peu une drôle d'expérience, eh bien j'ai découvert des gens qui sont émouvants, drôles, engagés, passionnants, passionnés, donc c'est absolument essentiel.
Ça me fait penser au Puy Follet, les bénévoles du Puy du Fou qui, eux, viennent partager aussi un peu l'expérience de ce parc. Damien Fontaine, mélanger des comédiens professionnels et puis des figurants, en tout cas toutes les personnes qui ont envie de s'investir dans le spectacle, c'est aussi pour vous une manière de combler ce spectacle?
C'est surtout une manière de l'incarner. C'est-à-dire que on a évoqué à plusieurs reprises le fait que c'était un spectacle et éminemment immersif à travers, on l'a dit, des projections qui vont s'étaler sur plusieurs milliers, voire hectares, en l'occurrence de plusieurs milliers de mètres carrés, un hectare d'images, mais pour lui donner finalement cet aspect humain, il était nécessaire d'y adjoindre tous ces participants. Et ces participants, ils sont pas simplement là au milieu de l'image, ils interagissent parfois avec l'image, ils complètent des actions qui sont dans l'image, ou au contraire, c'est l'image qui vient prolonger des actions qui sont sur scène. On a des décors qui sont impulsés ou qui sont générés même par les intervenants sur scène. Donc il y a vraiment cette interaction entre l'humain, qui d'ailleurs n'est pas que sur le cœur de l'église, mais oui, dans les allées un peu partout, et l'image tout autour des spectateurs.
Swan Payouz, pour vous le sentez cet engagement? Vous vous engagez pour le spectacle?
Oui, totalement. Moi, personnellement, mais je vois aussi ceux de mes camarades, du coup, qui même quand ils sont bénévoles, qu'ils aient un rôle à texte ou non, sont vraiment passionnés, parce que c'est des gens qui ont envie d'être là pour passer un bon moment, pour transmettre un bon moment, pour être en costume. D'ailleurs, en parlant de costume, je crois qu'on recherche encore des...
Alors, on va en parler, ça aussi.
Pour le costume et des couturières. Et oui, c'est un engagement. Il y a des gens, ça les prend aux tripes, en fait. Et je voulais revenir aussi sur le fait de l'inclusivité, au sens où, oui, tout le monde peut venir.
Oui.
Moi, je sais que, alors, je suis chrétien depuis peu, donc j'ai une foi récente. Mais le spectacle est pas, évidemment, ça parle de spiritualité et ça me touche particulièrement. Mais on
c'est pas une condition.
Oui, c'est ça.
Et ça aussi, on va en discuter. On va marquer une petite pause. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Claire, vous patientez encore quelques instants et promis, on vous accueille après ça. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec un gros plateau ce matin, nous avons la joie d'accueillir Damien Fontaine, metteur en scène, scénographe et compositeur de Paris Cœur de Lumière, que vous pourrez voir à l'église Saint-Sulpice à Paris en fin d'année. Louise Walter également nous accompagne de la paroisse Saint-Sulpice. Swann Payouz, vous êtes comédien bénévole pour ce spectacle. Et puis Natacha Géritsen, vous êtes l'assistante de Damien, notamment sur
ce spectacle.
Directrice artistique, voilà, et puis doubleuse aussi.
Comédienne de doublage. Parce que doubleuse, vous savez, à l'origine, c'est les patrons.
C'est pas très joli, oui.
Ah non, ce sont les patrons des boîtes de doublage. Ah bon. Donc, ils n'ont pas tout à fait les mêmes salaires que nous, en fait. Mais non, bon. c'est une erreur qui est commise souvent, mais c'est vrai qu'on dit comédienne qui fait du doublage.
Bon, ben voilà pour le CV de tout le monde. Damien Fontaine, vous avez composé alors le spectacle, mais aussi la musique qu'on va pouvoir entendre. C'est ce qu'on va d'ailleurs entendre dans un instant dans Je pense donc j'agis. Vous êtes vraiment plongé à 360, c'est le cas de le dire dans ce spectacle, en composant la musique en même temps.
Oui, en fait, moi je me définis un peu comme un raconteur d'histoire, donc ou un enlumineur d'histoire en l'occurrence sur ce spectacle. Mais l'idée, c'est effectivement de faire cohabiter le son, la lumière, l'image, de faire en sorte que, je le disais, on va pas être sur un spectacle, une proposition de plus à Paris de spectacles immersifs. Il y en a beaucoup, il y en a aux Invalides, il y en a dans d'autres églises. On est vraiment sur un spectacle formaté pour ce lieu et uniquement pour ce lieu, donc ce qui suppose tout ce travail en amont qu'on fait actuellement et qui nous prend à toutes et tous un temps assez incroyable, mais ce qui va donner véritablement, je dirais, l'originalité et la singularité de ce rendez-vous.
Ça me fait penser à Alexandre Astier. Alors, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais il a tendance à pas vouloir tout contrôler. Je vais pas utiliser cette expression, mais c'est lui qui fait le montage, par exemple, de ses séries ou de ses films. C'est lui qui compose également la musique. Mmh. Pour vous, c'était important d'avoir la main, en tout cas, à la fois sur la scénographie, la mise en scène et aussi sur la bande son. Et elle est très importante et on l'a dit tout à l'heure.
Oui, parce que dans ma tête, les choses sont assez précises sur le rythme, sur les moments forts que je souhaite amener à certains moments justement précis, et puis des instants qui vont être plus dans la retenue et des choses qui seront parfois plus épiques. On parlait de musique, il y aura des moments en live où d'ailleurs moi-même je serai au piano avec des artistes dont on ne dévoilera pas davantage de choses pour le moment, mais des artistes qui vont aussi compléter des passages très oniriques et très poétiques. L'idée encore une fois, c'est que la technologie de mise en lumière et en image de cet écrin de Saint-Sulpice ne soit pas un prétexte, mais soit finalement un moyen par lequel on raconte cette histoire liée au roman de Saint-Sulpice.
Des artistes chanteurs, chanteuses ou musiciens, musiciennes.
On dira rien. On n'a pas le droit.
Il n'y aura pas d'exclus.
Non, il n'y aura pas d'exclus encore.
Je suis un peu déçu.
Mais si vous nous réinvitez quelquefois, on viendra avec des choses dans notre besace.
On viendra avec eux même.
Voilà, écoutez, avec grand plaisir. On écoute et on commente après. Est-ce qu'elle a un nom, cette musique, Damien Fontaine ?
Non, elle en a pas. Il y a des noms de code à chaque fois sur ces musiques, mais
générique 2.
Générique 2, quand je vous l'ai envoyé. En fait, ça reflète assez bien l'esprit de ce qui va te donner dans ce spectacle. Il y a ces musiques à la fois très orchestrales,
très
épiques, justement. Et en même temps, je le disais juste avant, on aura des instants au piano ou autre, mais qui seront des instants plus intimes, j'ai envie de dire. Et toute la construction du spectacle, elle se fait justement à travers des scènes visuelles qui vont succéder les unes des autres, des épisodes autour des barricades où d'un seul coup les spectateurs vont être plongés parmi tous ces épisodes liés aux troubles et aux émeutes qui ont agité Paris pendant la Fronde, alors que Louis XIV est encore un gamin et que c'était sa régente de mère qui supervisait à la destinée du pays avec les conseils avisés ou pas de Mazarin. Mais tout ça va être reconstitué, je le disais, en images. Il faut imaginer tous ces intervenants autour, parmi le public, qui vont justement dresser des barricades qui parfois vont même être en lumière. Donc on a vraiment, on parlait d'immersion, l'immersion elle sera vraiment totale, y compris jusque dans certaines odeurs qu'on va amener. L'idée c'est que voilà, ce bond dans le temps se fasse complètement à travers cette immersivité. On évoquait tout à l'heure dans la première partie de l'émission les casques en VR, justement.
Réalité virtuelle.
L'idée c'est, alors c'est peut-être un vœu pieux, mais sans être trop présomptueux, c'est de reconstituer cette VR mais sans casque pour ce partage, partage se fasse avec ses voisins et lorsqu'on disait voilà qu'on allait investir les lieux à 360, c'est véritablement le cas, le son, l'image, la lumière, que les gens justement vivent cette aventure et cette expérience totalement avec et autour d'eux.
Je me fais gronder par Catherine au standard qui me dit mais il faut prendre Claire elle patiente depuis longtemps. Bonjour Claire.
Bonjour.
Je suis désolé, hein. Je vous ai fait patienter, mais quatre invités, vous êtes nombreuses et nombreux à nous appeler, donc voilà, petite minute à patienter. On vous écoute, Claire.
Voilà, moi j'habite aux Anglis, une petite commune dans la Normandie profonde. Et cette commune, qui est connue pour son château Gaillard, qui est une forteresse médiévale, a à son pied une église, une magnifique petite église. À l'intérieur, il n'y a que des richesses. Il y a un orgue du XVIIe siècle, ce qui est rarissime en France. Il y a des peintures murales, il y a des vitraux extraordinaires. Enfin, il y a plein de choses. Mais cette petite église, elle a besoin d'une restauration. Donc j'ai fait un rêve, mais en même temps j'ai l'épée sur terre. Mon rêve, ce serait d'avoir un spectacle pour animer cette église et faire venir des fonds pour restaurer l'église, parce que la restauration dépasse largement le budget de notre commune. Mais comment faire venir M. Fontaine alors qu'il a commencé à Don Rémy la Pucelle, mais que maintenant il fait des spectacles dans le monde entier, et que nous on est une petite commune sans moyens. Donc voilà, je lui pose la question, est-ce qu'il voudrait venir nous aider à animer cette église? Parce qu'en plus le spectacle qu'il présente est un spectacle compréhensible dans toutes les langues, et que nous avons beaucoup de touristes de toutes les langues, et qui donc pourraient partager ce moment d'émotion. Voilà. Donc comment faire pour financer un spectacle, pour financer la restauration d'une telle église.
D'une église. Merci Claire de nous avoir appelé depuis la Normandie. Damien, vous allez prendre votre billet pour aller aider Claire.
Alors, déjà, comme elle le souligne, j'ai eu la chance de faire beaucoup de spectacles un peu partout dans le monde et pas uniquement des très grands spectacles comme à Bogota ou autre. Don Rémy, la Pucelle qu'évoquait Claire, c'est aussi un petit village donc où est née Jeanne d'Arc et dans lequel on a justement imaginer un spectacle au départ avec des moyens d'emblée très, très importants, mais dans un endroit qui, je crois, compte 120 ou 130 habitants, donc c'est dire, mais qui a accueilli plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Je ne crois pas qu'il y ait déjà, il n'y a pas de petit spectacle dans la forme ou même par rapport au lieu. Il y a souvent des rendez-vous, justement, des occasions qu'il ne faut pas manquer entre un lieu et une population. À partir du moment où il y a cet endroit qu'évoquait Claire et qui est auquel les gens sont extrêmement attachés de par, justement, ses richesses patrimoniales, mais aussi de par l'histoire du lieu lui-même, il y a forcément des choses qui peuvent être faites. Et il y a quand même énormément de lieux dans lesquels on peut apporter, grâce à des spectacles, une manière de se les réapproprier et en partie peut-être de refinancer des choses pour aider à la restauration.
Louise Walter, je me tourne vers vous. Accepter la participation d'un spectacle dans une église. Alors, on l'a dit tout à l'heure, peut-être que ça pourrait permettre d'avoir un peu plus de fidèles, mais aussi ça a du sens d'un point de vue patrimoine quand on sait que les Français sont extrêmement attachés à leur patrimoine.
Oui, ça a beaucoup de sens puisque l'église Saint-Sulpice est une église qui a quand même une histoire assez très intéressante et très riche à raconter. Et puis, au sein de cette église, il y a quand même des richesses patrimoniales avec de très belles œuvres, et donc c'est un très beau moyen de les valoriser aussi.
On va continuer d'écouter quelques extraits du spectacle, et voici un extrait de la scène numéro 13.
Majesté, Monsieur Vincent de Paul demande à être reçu.
Il a réussi à quitter Paris? Faites-le entrer.
Madame, Monsieur le cardinal.
Monsieur Vincent de Paul, quelle joie de vous voir! Dieu merci, vous êtes sain et sauf, et désormais à l'abri. Asseyez-vous, le voyage a dû être des plus éprouvants. Comme vous pouvez le voir, le confort ici est un peu rudimentaire. Mais nous trouverons bien un lit pour vous, le temps que tout rentre dans l'ordre à Paris.
Madame, je ne suis pas venu pour me mettre à l'abri, mais plutôt pour vous demander votre aide.
Mais bien sûr, je vous écoute.
Vous souvenez-vous, lorsque votre épouse en est allée rejoindre notre Seigneur, vous m'avez dit, ne m'abandonnez pas, je vous confie mon âme.
Oui, comment l'oublier?
Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui viens me confier tout entier à vous, madame.
Voilà, nous sommes à Saint-Germain-en-Laye. La cour s'y est retranchée à cause des événements qui frappent Paris. Et on entend un personnage qui arrive, Vincent de Paul,
oui.
Natacha.
Oui, Vincent de Paul.
Qui est venu retrouver la région du royaume.
C'est une histoire vraie. Il a franchi les blocus, et qu'on appelait peut-être pas comme ça à l'époque d'ailleurs. Parce que Paris était enfermé. Plus personne n'avait à manger. Ils avaient enfermé tout Paris pour empêcher les frondeurs de continuer, en gros, de se révolter. Et donc, comme le peuple mourait de faim, Vincent de Paul a pris le risque de franchir ses barrages de nuit et d'aller retrouver la régente et Mazarin, en lui demandant d'intervenir pour que les Parisiens aient à nouveau à manger, en fait. Ça n'a pas fonctionné, mais il a essayé. Et la régente avait un rapport très privilégié avec la religion, elle était très croyante, et aussi avec Vincent de Paul, effectivement, qui n'était pas encore à l'époque Saint Vincent de Paul, c'était Vincent de Paul, tout simplement. Et je sais que Michel, par exemple, Vignier, qui est moins connu qu'Annie Dupéret, Annie joue la régente.
Anne d'Autriche.
Qui joue la régente Anne d'Autriche, oui. Et Michel joue Vincent de Paul. Oui. Il est moins connu, en tout cas, du grand public, même s'ils connaissent énormément sa voix, parce que c'est la voix de plein de personnages, de plein de gens connus. Mais il apporte, si on l'a choisi lui, c'est parce qu'il apporte une humanité à ce monsieur qui avait déjà 60 et quelques, ce qui n'était pas rien à l'époque, hein, qui a pris vraiment des risques, et qui était, je trouve ça magnifique, ce prêtre qui prend le risque de franchir ce blocus, donc de se faire tuer, tout simplement, et d'aller voir la reine pour que les Parisiens aient à manger, pour que le peuple parisien ait à manger. Pour moi, c'est un exemple de ça va paraître prétentieux, mais de ce que doit être la religion, justement. Cette charité et cette générosité, cette empathie à l'égard de ceux qui souffrent. Voilà.
Et donc, Vincent de Paul et Anne d'Autriche, donc interprétée par
Annie
Dupéret,
oui.
Est assistée du cardinal Mazarin, joué par Nicolas Marié.
Ah non,
c'est
Nicolas,
pas une mauvaise information.
Non. C'est Jean-Paul Borde qui joue Mazarin. Et c'est Nicolas Marié joue le Nicolas Marié qui a eu le César du second rôle l'année dernière, qui est un comédien qu'on voit beaucoup à la télévision, dans les films de Dupontel aussi. Il faisait notamment un avocat bègue dans un film assez mémorable. Mmh. Enfin bon, joue lui le lieutenant de l'Araignée, qui était le premier lieutenant de police.
Tout à l'heure aussi.
Qui était le premier lieutenant de police, puisque si j'ai bien tout compris, c'est Louis XIV qui a créé la police à Paris. Mmh.
Damien Fontaine, comment on écrit les dialogues? Est-ce qu'on se base sur l'histoire? On se renseigne et puis on essaye de trouver les bons mots sans tomber dans des anachronismes, par exemple?
Alors oui, déjà, il faut veiller, comme vous le signez, à ne pas être tapé à côté, parce que quand on est dans un cadre historique, on peut pas se le permettre. Et en même temps, il faut que le public qui va venir découvrir ce spectacle soit pas dans un cours magistral. On n'est pas à la Sorbonne, parce que je crois que quelqu'un va bientôt y prononcer un discours dans une quinzaine de minutes. Mais non, je blague à part, on n'est pas dans un cours, magistral, dans quelque chose qui serait didactique ou trop pédagogique. Il faut que ça reste quelque chose d'éblouissant, une forme d'émerveillement, grâce justement à la part de romanesque qu'on y amène, même si, comme le souligne évidemment Natacha, cette rencontre a évidemment eu lieu. On ne sait pas dans quelle mesure elle s'est tenue, et c'est ce qui nous permet justement, dans le cadre de l'écriture et de la rédaction de ce spectacle, d'avoir beaucoup de portes ouvertes, et de le faire aussi à travers un certain nombre d'autres personnages qu'on va pas forcément entendre aujourd'hui, mais des personnages qui eux vont porter au premier plan toute cette histoire, et ce sont eux qui vont véritablement incarner les héros du roman de Saint-Sulpice.
Swann Payous, vous avez des dialogues dans votre rôle.
Pour l'instant, les distributions ne sont pas encore terminées. Oui. On fait encore les lectures de textes, normalement, très bientôt. Donc,
demain soir.
Demain soir, exactement. Oui. J'y serai. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore fixé. Voilà.
Oui, enfin, Swann, oui, effectivement. Alors, il y en a plein dont on ne sait pas du tout quel rôle ils vont faire encore, parce qu'il y a aussi une histoire. C'est très compliqué à organiser. Il y a l'histoire de la compatibilité des binômes. Parce que c'est pas forcément une semaine sur deux. Ça peut être, il y en a qui veulent venir un jour sur deux, d'autres deux jours sur trois. Donc il faut que ça corresponde. Évidemment, on peut pas se permettre d'avoir un rôle vide un soir. Donc, mais Swann, effectivement, il s'est déjà arrangé avec son binôme. Donc je sais déjà quel personnage il va jouer. Oui, ce sera dans le troisième acte. Et il a des mots, beaucoup de mots.
Ouais. Bon, ben voilà. Vous n'allez pas vous ennuyer. On est le 25 avril. Ça commence en octobre. Vous en êtes à... Quel est votre pourcentage de construction du spectacle, là, Damien?
Alors, à cette heure, tout le spectacle, évidemment, est écrit, et à 95%, toutes les voix ont été enregistrées.
Il nous reste une personne
pour l'enregistrement. Donc, on est plutôt bien dans les temps. Énormément d'images ont commencé à être créées. On a modélisé tous les lieux, on les a scannés. Donc là, c'est des choses assez techniques. Mais à partir de maintenant, on construit véritablement le spectacle comme un film. C'est-à-dire qu'il y a des équipes d'animateurs qui travaillent dessus. Il y a des designers sonores, il y a la musique, vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc tout ça se construit en parallèle. Jusqu'au mois de septembre, où les répétitions vont encore s'intensifier. Et après cela, on va rentrer dans une phase justement de montage technique où on investit totalement les lieux. Et c'est là où ça devient véritablement une petite ruche à l'intérieur de l'église Saint-Sulpice. Et ce spectacle donc qui va s'ouvrir après le 16 octobre.
On s'écoute un dernier extrait. Allons-y, il est un extrait de la scène numéro 23.
Je pense que ces marauds-là ont dessein de me briser à force de heurter contre les pavés.
Approchez, l'Araignée, approchez. Nous avons ouï dire que vous étiez sur une nouvelle affaire de poison. Rien, nous l'espérons, qui risquerait de rejaillir sur la cour.
Que votre majesté soit rassurée. L'affaire en question ne concerne que quelques petites gens des environs de Saint-Sulpice. Tous les protagonistes viennent d'être arrêtés.
Ah, fort bien, lieutenant, fort bien. Entre cette marquise de Brinvilliers qui a ouvert la voie au bouillon de 11 heures et la Montvoisin dont les filtres ont décimé quelques têtes à Versailles, nous ne voudrions pas d'un nouveau scandale.
Votre Majesté peut goûter sa tranquillité. Votre police maîtrise la situation.
En ce cas, ne transigez sur rien. Il est temps que cesse cette odieuse façon d'ôter la vie à autrui.
Le nouveau lieutenant de police de l'Araignée se rend à Versailles alors que le roi assiste à une répétition d'une pièce de Molière, on l'entendait au début,
oui,
hein, les précieuses ridicules.
Oui.
La pièce est interrompue par le roi Louis XIV qui arrive. Et donc là, il y a un échange, Natacha.
Oui. Entre Louis XIV, qui est donc interprété par, parce qu'il n'y a pas de raison de passer.
Il a une très belle voix, très
Martial
belle voix.
Le Minou, il s'appelle. C'est quelqu'un qui fait énormément de théâtre et de doublage. Et Nicolas, qui est Nicolas de l'Araignée, qui est donc interprété, là, en l'occurrence, par Nicolas Marié. Un Nicolas pour un autre. Et qui s'est régalé. Nicolas de l'Araignée a plusieurs scènes, dont certaines scènes d'interrogatoire, puisqu'il y a cette histoire de poison. On va pas en dire trop, parce que sinon les gens viendront plus voir le spectacle. Mais cette histoire de poison qui traîne en France et qu'on va retrouver sous une autre forme à Saint-Sulpice. Voilà. Et il faut que les gens qui écoutent ça soient pas trop inquiets, parce qu'effectivement, on surarticule un peu dans la façon de jouer. Là, on peut se dire, mais il joue bizarre. Ah oui. Un petit peu, quand même.
Ah oui.
Et
plus experte que moi, mais
oui, par rapport
ça ne me choque pas.
Par rapport au doublage habituel, etc. Mais il faut bien savoir que dans une église, il y a une acoustique très étrange aussi, avec une résonance très forte, et qu'en fait, une fois qu'on est dans l'église et qu'on entend les voix comme ça, on ne se rend pas compte qu'elles sont bizarres. Parce qu'elles soient adaptées à l'église elle-même. Voilà.
Parce que ça résonne énormément, parce que l'espace est immense.
Est immense.
Ça, vous avez travaillé, Damien Fontaine, avec des ingénieurs du son, des personnes qui sont vraiment spécialistes du son et qui peuvent permettre peut-être d'adapter les haut-parleurs, la bande-son.
Alors oui, on travaille même toujours avec des acousticiens.
Ah voilà, des acousticiens. C'est bon terme.
L'idée, c'est véritablement de recréer plusieurs îlots dans la salle, dans l'église, plusieurs îlots qui vont être justement des îlots totalement immersifs. C'est-à-dire que on peut pas reproduire à l'intérieur de l'église quelque chose qui serait une sorte de duplication de ce qu'on a dans les cinémas, parce que les cinémas, c'est une boîte qui est faite pour, et puis c'est une petite boîte entre guillemets. Là, la boîte, elle est gigantesque et surtout, c'est pas une boîte. Du coup, on est amené à recréer plusieurs espaces qui cohabitent les uns les autres pour avoir cette spatialisation un peu partout et faire en sorte que ces différents espaces s'articulent les uns les autres. Et ça, c'est assez novateur. Pour ne pas dire, ça sera la première fois qu'on va le faire. Donc ça demande un certain nombre d'études techniques au préalable pour faire en sorte que en tout point de l'église, on ait cette spatialisation, mais surtout cette intelligibilité des voix où qu'elles soient.
Et d'essayer de comprendre aussi comment résonne le lieu, l'église Saint-Sulpice, parce que c'est une... J'ai regardé un reportage il n'y a pas longtemps sur la cathédrale Notre-Dame de Paris qui est en pleine reconstruction, et il y a des acousticiens pour le coup qui travaillent vraiment sur la place de chaque pierre, etc., pour savoir un peu comment va travailler la cathédrale. C'est pareil pour Saint-Sulpice?
Oui, alors on a la chance justement, quand on est après la modélisation des lieux, d'avoir un volume dans lequel on peut imager le son et voir justement comment se comportent les formes d'ondes liées à la propagation du son en fonction des endroits où ce son se répercute, où il y a des obstacles, ou au contraire lorsqu'il y a trop d'immensité. Donc on essaye de calculer, même si j'allais dire l'expérience ne remplacera, sera celle qui nous permettra d'appréhender au mieux les choses, on essaye de calculer les délais de la réverb ou de ce genre de choses qui nous posent un petit peu des problèmes.
Natacha ?
Oui, je voulais simplement dire aussi qu'on travaille, et Damien spécifiquement, travaille toujours avec un ingénieur du son particulier qui s'appelle Alex Brainel et qui est habitué à faire ça. Parce que c'est pas la même chose qu'un doublage, c'est pas la même chose que la radio, c'est pas la même chose qu'un tournage avec les perches et tout ça.
C'est pas la même chose qu'une salle de concert non plus.
Du tout. Et d'ailleurs, chaque salle de concert est un peu différente.
Oui,
puis. Mais c'est vrai que c'est spécifique. Donc, d'ailleurs, souvent, on se dispute un peu avec Alix parce qu'il a tendance à forcer les sons et donc à laisser passer des subtilités. Bon. Mais c'est comme ça, il a la priorité. Il faut que les gens puissent entendre quand même, qu'ils voient et qu'ils entendent.
On arrive à la fin de cette émission. C'est dans 6 mois à peu près.
Même pas.
Ouais, ça va arriver très très vite.
Oh, oui.
Vous êtes dans quel état d'esprit? Je commence avec vous, Louise Walter.
Ben on est très, moi j'ai hâte que ce spectacle arrive parce que là on entre vraiment dans le vif du sujet avec la paroisse et donc ça va être vraiment un superbe projet, donc on a vraiment hâte qu'il se déroule dans l'église.
Oui, bon, ben on va Voilà. Hâte, vous, Swan Payouze.
Ben, je suis impatient aussi. Je suis très flatté de faire partie de ce projet. Donc, je tiens à remercier Damien et Natacha parce que ils me font confiance. Donc, c'est très agréable. Et je pense que ça va être vraiment grandiose.
Ouais, vous êtes prêt à réviser les textes?
Prêt, oui. En plus, vu que je passe pro, maintenant, je peux me consacrer que à ça.
Bah, bravo, en tout cas.
Donc, ouais. C'est super. Je vais vraiment pouvoir m'investir pleinement. Et j'espère ne pas les décevoir.
Travailler comme ça sur un projet, ça doit être assez impressionnant, vertigineux même. Et vous, Natacha Gerritsen?
Moi, je suis à la fois épuisée, soyons clairs, et puis ravie, et puis toutes ces briques qui s'enchaînent, tous ces humains qui travaillent ensemble. Damien parlait tout à l'heure de ruche dans l'église, mais cette ruche, elle est éparpillée pour l'instant, mais il y a des gens partout. La spécificité de ce spectacle.
Pardon, je vous coupe. C'est combien de personnes qui
Ah, ça, Damien sera plus en mesure, mais c'est énorme.
Effectivement, c'est énorme. En tout cas, entre les figurants, les intervenants, on est au moins sur 450 à 500 personnes qui travaillent dessus.
D'accord. Ouais, c'est énorme. Oui. Donc, oui, c'est une ruche.
C'est une ruche. C'est une ruche travailleuse. C'est une ruche qui prépare un spectacle pour faire plaisir aux gens, pour qu'ils aient le plaisir. Allez, on va faire un jeu de mots idiot, de goûter au miel. De Paris Cœur de Lumière dès le 16 octobre à l'église Saint-Sulpice.
Ça va faire le buzz.
Très joli. Oui, je pense que ça va faire buzz, effectivement, ouais. Le buzz, oui.
Et vous, Damien Fontaine? Le chef d'orchestre de tout ça.
Je suis à la fois impatient, comme le disait Louise, mais en même temps pas trop, parce qu'il nous reste encore pas mal de choses à faire. Donc, en tout cas, je suis vraiment ravi, et c'est peu dire que d'investir un lieu à travers, encore une fois, une forme de spectacle qui n'aura jamais été présentée et proposée à Paris, et dans un format plus qu'XXL, puisque, on le soulignait, c'est la plus grande église de la capitale. Mais c'est plus que cela, c'est encore une fois une histoire incroyable qu'on va dérouler ici, dans un écrin qui ne l'est pas moins, et puis surtout avec des moyens qui sont tout aussi époustouflants et jamais vus ici.
Bon, bon courage.
Hein. Merci.
Il vous en faut, mais bon, c'est bien parti quand même.
C'est du joli courage, c'est pour faire du bien, pour faire plaisir et pour faire un très beau spectacle.
En tout cas, on a été très heureux aussi ce matin de pouvoir en parler dans Je pense donc j'agis. Et donc, on se donne rendez-vous à partir du 16 octobre jusqu'au 23 novembre 2024 en l'église Saint-Sulpice de Paris, dans le 6e arrondissement. Et pour en savoir plus, on peut déjà acheter des billets, je crois, sur le site paris.coeurdelumiere.fr. On mettra de toute façon le lien sur notre site rcf.fr. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé.
Merci à vous.
Swan Payouze, Louise Walter, Natacha Gerritsen et puis Damien Fontaine. C'était un grand plaisir. Merci à Jean-Paul, à Nicolas, Catherine et Baptiste à la réalisation ce matin. Bonne journée avec RCF et on se retrouve nous demain à partir de 9h pour le Presse Club et à 10h votre émission de jardinage. Prenez-en de la graine.